Ça marche? Ah, je suis là. La bonne nouvelle pour cette semaine, en fait, j'ai travaillé à Martinique cette semaine. J'ai rentré hier et j'ai juste pour 2 jours, mais 2 jours complètes en français. C'était un peu dur, mais mon travail porte les chances aussi de parler en français. Pas souvent, mais c'était bien. Et c'était bien pour nos collègues là-bas, parce qu'ils sont un peu inquiets de me recevoir, parce qu'ils ne sont pas totalement à l'aise de parler en anglais. Et quand j'ai arrivé là-bas et j'ai commencé à parler en français, les gens sont très détendus. Et c'est bien, ok, on peut parler. Mais je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un moment très, très important ce matin. Et la louange, c'était super. C'était concentré sur Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. C'est surtout sur lui. Il est le plus important. Et ça, c'est un bon message pour aujourd'hui. Mais avant, je commence. Pour toutes les mères ici présentes, c'est la fête de mère aujourd'hui. Et je voudrais dire un grand merci pour ce que vous faites au sein de nos familles et pour nos familles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous récompense dans chaque activité que vous faites dans la famille. Et qu'il vous donne une joie qui vienne le plus profonde de vos cœurs. Merci beaucoup. Avant que je commence aujourd'hui, je vais dire quelque chose un peu choquant. C'était difficile pour moi pour préparer cette semaine, ce pas des questions aujourd'hui, parce que c'est un sujet un peu complexe, mais Dieu a déjà abondé ça aujourd'hui. L'un des grands problèmes de l'Église aujourd'hui est qu'elle est devenue égocentrique et centrée sur elle-même. C'est triste, mais c'est une vérité. Je ne juge pas, mais si on voit les églises, notamment dans les États-Unis, on voit souvent, ils parlent sur eux-mêmes. Je réfère à l'Église mondiale, par ici. On a des problèmes, on a des défauts, mais si on prend un peu de distance et on regarde l'Église mondiale, il y a une pertinence pour nous de voir ça, pour nous de voir comment on va agir les choses pour nous aujourd'hui, pour l'Église aujourd'hui. De nombreuses églises enseignent aujourd'hui sur la prospérité, la vie dans la grâce et la liberté, la possibilité de devenir une meilleure personne, de s'approcher de sa vocation, de travailler à son héritage, les choses que chacun d'entre nous doit faire pour être meilleur aux yeux de Dieu. Trop souvent, nous prêchons sur le fameux « moi », « moi-même », « je », les trois personnes les plus importantes du monde. Beaucoup moins sur la grande mission à laquelle nous avons été tous appelés. Nous parlons du changement passif du monde dans lequel nous vivons et non du changement actif de ce monde. Nous parlons de devenir de meilleures personnes, de nous rapprocher, de ressembler davantage au Christ, nous parlons beaucoup, si je dis, de christianisme personnel. Je ne porte pas de jugement. Et même si je parle du monde qui nous entoure, de l'Église mondiale, surtout, elle partage la même croyance que nous, je parle aussi de moi, personnellement. C'est pour nous tous. J'espère que cela vous toucherait aussi. Ce que je dis, c'est qu'il y a des choses dont nous devons parler plus que nous le faisons et que nous devons pratiquer beaucoup plus que nous le faisons peut-être en allant dans ce monde. Nous devons travailler à notre propre salut. Nous devons grandir et être enseignés sur la manière de ressembler davantage de Christ, au Christ. C'est essentiel pour être un chrétien aujourd'hui. Mais nous devons nous rappeler que être chrétien ne se limite pas à nous-mêmes, mais qu'il y a aussi le grand commandement auquel nous sommes appelés à participer. Avant que cela ne commence à ressembler à un corps majestueux, magistral, pardon. Mais oui, oui, oui. J'ai gardé les deux mots dans la traduction. Je pense que nous avons besoin de quelques textes bibliques. Je vous invite à sortir vos Bibles, si vous n'avez pas, à vous connecter à Internet et ouvrir vos applications au chapitre 10 de l'Épître de Romains. Je voudrais lire rapidement deux versets, les versets 14 et 15. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Les livres saints le disent bien. Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Ce verset m'a frappé l'autre jour. J'ai lu quelques fois, mais l'autre jour, quand j'ai lisé mon Bible, il m'a frappé. C'est tout à fait logique. Ce sont les paroles de Paul. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que les gens entendent les paroles de Dieu, à ce qu'ils entendent la bonne nouvelle, si nous ne la prêchons pas? Aujourd'hui, nous allons creuser un peu plus loin pour mieux comprendre ce dont Paul parle, ainsi que la situation et ce que nous pouvons en apprendre. Je vais extraire quelques versets de chapitre 10 pour nous aider aujourd'hui à fournir le contexte de la situation de Paul. Mais Romains 10 est un texte volumineux et j'aimerais vous encourager à prendre le temps de le lire cette semaine et peut-être aussi chapitre 9 et chapitre 11 ensemble. Le contexte général. Paul parle de sa déception à l'égard des Juifs israélites de peuple élu. Paul traite du problème lié à la condition d'Israël. Que signifie le fait qu'Israël ait manqué son Messie? Qu'est-ce que cela dit de Dieu? Qu'est-ce que cela dit d'Israël? qu'est-ce que cela dit de notre position actuelle en Dieu? Et ces trois chapitres font partie de la manière dont il explique comment Dieu sauve les gens. J'ai été particulièrement attiré par ces deux versets qui m'ont frappé. Je répète, c'était fort. Et j'ai lu et relu plusieurs fois pour m'assurer que je les avais bien lus. Je me suis dit que c'était tout à fait logique. Ce que me touchait au cœur, c'est que m'a fait réfléchir à deux fois. Ce sont les questions suivantes. Quel est mon rôle dans tout cela? Et deuxièmement, pourquoi n'ai-je pas fait plus? Chapitre 10 traite principalement des raisons pour lesquelles Israël rejette le Messie. Israël avait la loi et était gouverné par la loi, mais la seule façon d'être sauvé était d'obéir la loi 100% du temps. Il n'y a qu'une seule personne qui ait jamais été capable d'y parvenir. C'est Jésus-Christ. Et je ne suis pas une experte de loi, des coutumes ou de la religion juive, pas du tout. Mais je te dis simplement pour comprendre ce que Paul a dit à le sujet. Paul était un expert, car il était juif. Il a également persécuté les chrétiens jusqu'à ce qu'il y rencontre le Seigneur sur le chemin. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Il a donc pu regarder les Israélites en arrière et amour pour eux. Il a un grand amour pour sa famille. C'était sa famille avant. Il les a critiqués. Mais il a aussi décrit une façon pour nous de ne pas tomber dans le même piège. La loi est importante. Il est toujours important. Mais pour nous, Jésus est le but de la loi. Il a donné sa vie pour la loi. La loi existe toujours et ne change pas. On obéit Jésus. Sans la connaissance de Dieu, la loi signifie rien. Paul nous rappelle ici que nous pouvons finir par être très religieux, faire les choses bien et correctement, mais nous concentrer uniquement sur nous-mêmes. Nous passons à côté de l'essentiel. Nous devons connaître l'amour de Dieu et non sa loi pour obtenir un véritable salut. Il a également parlé en termes apologétiques des Israélites. Paul mentionne qu'ils étaient remplis de zèle pour Dieu, pour le Seigneur, mais qu'ils n'en avaient pas la connaissance. Ils avaient le zèle pour Dieu, pour le Seigneur, mais pas de connaissance. Nous pouvons être pareils en étant religieux dans notre façon de fonctionner et d'agir en tant que chrétiens. Nous pouvons être remplis de zèle pour le Seigneur. Nous pouvons bien paraître agir comme des bons chrétiens, mais le fait d'être religieux ne signifie rien. Il n'est pas bon de se contenter de faire des gestes et de se tromper d'objectif. C'est un grand piège dans lequel tombent de nombreux chrétiens aujourd'hui. Vous voyez, au lieu de chercher la justice en Christ, nous cherchons notre propre justice. Très subtilement, très lentement, nous risquons, en tant que chrétiens, de tourner nos yeux du Christ pour les placer sur notre propre nombril. Si nous sommes sauvés et que nous cherchons la justice en Christ, en Dieu, nous vivons par la foi et nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur et nous vivons selon sa volonté. En tant que chrétiens, nous commettons souvent l'erreur d'essayer de justifier notre salut, de continuer à travailler et de montrer que nous sommes dignes de salut. Je ne suis pas sûr, j'ai vu ça dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible, c'est fait. Nous n'avons pas une raison de justifier notre salut. Quand il était donné, c'est fait. Mais nous souvent tombons dans ce piège et nous sommes liés par une loi qui nous oblige à travailler pour attendre notre justice et la maintenir. Il est la justice de la foi. Paul fait clairement la distinction entre les gentils qui ont été si facilement préparés à accepter le Christ comme le Sauveur, parce qu'ils n'avaient pas la loi et qu'ils pouvaient croire par la foi. Nous sommes appelés à continuer dans la foi. Si nous tournons à 1 Corinthiens 1, 22 et 23, les Juifs demandent des signes étonnants et ceux qui ne sont pas juifs cherchent la sagesse. Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela. Et ceux qui ne sont pas juifs pensent que c'est une folie. La question posée par Paul est bien celle de savoir si Dieu les a abandonnés, eux, les Israélites. Non, c'était en fait la responsabilité d'Israël, les Israélites. C'était leur propre faute. C'est pas Dieu. Ils avaient les lois, mais ne voulaient pas se soumettre à la justice de Dieu. Cherchons plutôt pour leur propre justice. C'est une grande différence. Nous aussi, nous avons la responsabilité personnelle de croire en la justice de Dieu et de poursuivre le Christ et nous soumettre à lui dans tous les aspects de notre vie. Une fois que nous sommes sauvés et que nous confessons notre salut, nous sommes sauvés. Nous n'avons pas à essayer de gagner ou de continuer à maintenir notre salut et à travailler pour lui. Nous devons nous soumettre au Seigneur et à ses voies en nous conformant à sa ressemblance. Nous y travaillons parce que nous nous sommes soumis à lui. Et que par cette soumission, nous désirons ardemment devenir des meilleures personnes, ressembler davantage au Christ Et ça, c'est la seule raison. Nous nous transformons activement pour lui. Ressemble davantage parce que nous le désirons. Et non parce que nous pensons que nous devons le faire ou que nous risquons de perdre notre salut. Les versets qui précèdent, le verset 14, parlent de la manière de gagner le salut. Paul le dit très simplement, nous devons croire dans notre cœur et confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur. Croire dans notre cœur. Une connaissance de tête ne suffit pas. Nous devons croire dans notre cœur ce qui exige de la foi. Une fois que nous croyons, nous devons confesser notre foi. Cela signifie que nous reconnaissons que Jésus est Dieu, qu'il est le Messie et que son œuvre sur la croix est la seule voie du salut pour l'humanité. Paul a fait du chemin et a passé du temps à expliquer où les Israélites se sont trompés et comment nous devrons éviter cela et à quel point il est simplement d'être sauvé. Immédiatement, après avoir parlé du salut, il parle de prêcher l'Évangile, le besoin de prêcher d'évangile, de besoin d'avoir les gens qui partent de faire ça. Ils ne nous disent pas de faire une pause, de nous occuper de nous-mêmes, de nous adapter, de devenir parfait ou de prêcher ensuite. Il aborde immédiatement la question de la prédication de l'évangile. Et il nous exhorte à envoyer des gens prêcher l'évangile. Il passe d'un discours sur le salut à l'accomplissement direct du grand commandement que l'on trouve dans Matthieu 28, 18 à 20. Si, c'est là. Jésus s'approcha d'eux et le dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-le, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En lisant ce texte, je me suis rendu compte qu'aucun d'entre nous n'a vraiment d'excuses. Moi aussi, il n'y a pas d'excuses. Nous sommes appelés, nous sommes tous appelés. Oui, nous sommes en travail encore, mais nous sommes appelés à aller vers les nations. On essaie de nous perfectionner et on laisse le travail d'évangélisation, de formation de disciples à certaines personnes de Vahoué. Nous nous retrouvons avec un vide dans l'Église aujourd'hui. Quelque chose qui est clairement visible pour les non-croyants. Dans notre recherche de la perfection, nous mettons souvent en évidence nos imperfections. Ce qui amène les gens à douter et à ne pas faire confiance à nos paroles. Nous devons continuer à essayer, mais nous ne pouvons pas attendre, car nous devons agir par la foi. C'est ce que Dieu nous commande. J'ai parlé des Israélites et je les ai comparés au christianisme jusqu'au présent. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Il est probablement très facile de répondre à cette question. C'est également très pertinent aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a probablement aucun pays au monde qui n'était pas entendu parler de christianisme, qu'il existe une culture ou un peuple qui n'est pas entendu parler de Dieu. Nous pouvons certainement nous promener dans la rue en Marguerite, dans nos quartiers, et demander aux gens s'ils connaissent Jésus. Vous obtiendrez une réponse positive. Je suis sûr que c'est le cas. Mais la plupart des gens diront également qu'ils ne croient pas en lui. Ils ont une connaissance de tête, mais pas de cœur. Nous avons donc deux questions pertinentes aujourd'hui. Une Église mondiale qui aime parler d'elle-même et le fait que de nombreuses personnes sur la planète ont entendu parler de Jésus, mais n'y croient pas. Nous avons beaucoup à faire. La moisson nécessitera de nombreux ouvriers. Charles Spurgeon a dit, notre seule préoccupation devrait être de faire la volonté de notre Maître, le Christ. Combien de fois nous levons le matin et demandons-nous au Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Nous pouvons avoir une idée de la volonté de Dieu pour nos vies dans le moyen terme, long terme, les voies où nous sommes, mais combien de fois on demande chaque jour quelle est votre volonté pour moi aujourd'hui? Dans quelle mesure sommes-nous en phase avec Dieu chaque jour? Dans quelle mesure sommes-nous concentrés sur lui chaque jour pour être capables d'accomplir sa volonté chaque jour? Nous sommes tous impliqués dans le fait d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons tous être actifs. Récemment, nous avons parlé en tant que responsables de l'Église de notre besoin dans cette Église d'intensifier et d'être plus intentionnel dans l'évangélisation, dans l'impact sur les villes, les cités, les pays. Nous en reparlerons plus tard dans l'année, mais nous voulons commencer à équiper les gens pour qu'ils soient plus intentionnels dans leur marche, pour qu'ils prêchent l'Évangile. Nous organisons un certain nombre de sessions plus tard dans l'année, un peu de pub, mais j'ai vraiment un cœur. À ce moment, en France, nous avons besoin. Et j'ai parlé avec George Thiel l'autre jour, un peu de pub pour le festival. On va parler sur ce sujet aussi. Mais c'est un sujet vraiment important pour l'Église à ce moment. En France, on a besoin. Nous ne tendons pas à ce que tout le monde se tienne devant la chair pour prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à cette vocation, mais vous pouvez prêcher l'Évangile aux gens qui vous entourent. Il y a une manière de faire ça. J'aimerais poser une question à chacun d'entre vous, ici, présents, et à ceux qui écoutent l'enregistrement. Qui, la semaine dernière, a parlé à non-chrétien de sa foi, de ce que Dieu a fait pour lui? Plus que j'ai pensé, mais j'ai honte d'admettre que je ne l'ai pas fait de toute cette semaine. Le plus pire, j'ai même eu l'occasion d'en parler un peu. Et j'ai raté. Je sais que je suis une personne timide. Oui, oui. Mais je suis une personne calme, respectueuse des gens et je ne veux pas de déranger les gens. Ça, c'est un peu de mon caractère. Mais c'est un problème. Ce n'est pas une vraie excuse. Ce n'est pas quelque chose que Dieu veut pour moi, pour nous. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort, de me dépasser et d'avoir foi dans le Seigneur pour qu'il fasse sa volonté. Dieu aurait pu choisir n'importe quel moyen de partager l'Évangile. Imaginez les anges qui viennent sur la terre, qui fait les choses étonnantes, qui prêche l'Évangile. C'était chouette, je crois. Waouh! Mais en fait, Dieu a choisi nous de le faire. Pas des anges, pas des animaux, pas rien d'autre que nous de partager l'Évangile. La traduction de la Bible anglaise parle un peu différent. La dernière, je ne sais pas s'il y a des traductions françaises qui disent la même chose, mais la dernière partie de le verset 15, en anglais, c'est « How beautiful are the feet of those who bring good news. » Comme sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. J'aime bien cela. C'est assez poétique. Mais les pierres parlent d'action, active. On fait des choses, de mouvement, de vie. Nous sommes appelés à sortir et à partager l'Évangile. Il s'agit d'un partage actif de l'Église, de l'Évangile, et non d'un partage passif qui espère que, par hasard, les gens recevront l'Évangile. Si je suis parfait, les gens veulent voir et je veux quelque chose, il a quelque chose, je veux la même. Nous ne sommes pas parfaits. Ça, c'est le problème. On montre quelque chose d'imparfait aux gens. C'est une raison, les gens ne veulent pas entrer dans les choses, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous pensons que nous sommes parfaits des fois. Nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Mais ce n'est pas vrai. Yeah. nous sommes appelés à sortir et partager l'Évangile. Un partage actif, pas passif. Une action intentionnelle. Soyons plus intentionnels. Je ne voulais pas être trop long. Je veux donc me contenter de résumer quelques points. Mais si, tout d'abord, notre salut passe par la justice de Dieu et non par la loi ou le fait de se rendre juste soi-même. Nous devons éviter de tomber dans ce piège, de nous concentrer uniquement sur nous-mêmes et de faire de nous le centre de notre foi au lieu de Dieu. Deuxièmement, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Dans quelle mesure sommes-nous en phase avec ce qu'il veut pour nos vies au quotidien? Prenons quelques minutes chaque jour pour demander à Dieu quelle est sa volonté pour nous aujourd'hui. Étudions la Bible chaque jour. Voyons ce que Dieu fait dans nos vies et prenons à marcher dans cette volonté chaque jour, chaque jour, chaque jour. Troisièmement, prêchons l'Évangile. Nous avons tous quelque chose à partager. Soyons déterminés à tendre les perdus, à partager l'Évangile avec les gens qui nous entourent. Ayons un impact sur ce quartier. Ayons un impact sur le quartier où nous vivons. Ayons un impact sur Nîmes, sur la gare, sur la France, sur l'Europe, jusqu'aux extrémités de la terre. Et enfin, engageons-nous à développer les outils qui nous aideront à le faire. Nous avons déjà toute l'information dans nos têtes. Bien sûr, nous connaissons les choses que Dieu a fait pour nous, dans nos vies. Ça, c'est quelque chose qu'on peut partager. Ça, c'est quelque chose pour attirer les gens, pour prêcher l'Évangile, pour donner l'opportunité de le prêcher. Dieu fera le reste. En guise d'encouragement pour chacun d'entre nous, entre vous, soyons intentionnels. Prêchons pour qu'ils puissent entendre. Partageons l'Évangile pour qu'il y touche le cœur des autres. Lorsque l'occasion se présente de mieux nous équiper, saisissons-la. Merci beaucoup.